Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les coulisses de l'Assemblée nationale, c'est ce que nous propose notre invitée, Hélène Begmézian, chef adjointe du Monde.fr. Vous avez suivi les travaux de l'Assemblée nationale pendant plus de 4 ans. Vous étiez journaliste parlementaire. On racontera votre métier et ses coulisses aussi parce que c'est intéressant. Ces députés qu'on va élire les 11 et 18 juin prochains, ils vont devoir se conformer à une nouvelle loi. Laquelle ? Et qu'est-ce que ça va changer ?
La loi sur le non-cumul. Et alors, c'est très difficile de dire ce que ça va changer, mais moi, je suis persuadée que ça va changer beaucoup de choses. Pour la première fois, on va avoir des députés qui ne seront que députés. Ils pourront avoir un mandat local, mais pas un mandat exécutif. Ça veut dire pas maire, pas président de région, pas président de département. Et donc, ça va radicalement changer, je pense.
Il y aura plus de monde, c'est ça ? Dans l'hémicycle ?
On peut penser qu'il y aura plus de monde. Ouais. Probablement que mécaniquement, il y aura plus de monde, même si il faut faire attention parce qu'il y a des députés qui sont très cumulards et qui sont à la fois très bosseurs. Je pense à quelqu'un comme Christophe Sirugue, qui est devenu secrétaire d'État en fin de législature. Il était député, maire, président d'Aglo, maire de Chalon.
Oui.
Et à l'Assemblée, il était un des plus travailleurs. Il était même vice-président de l'Assemblée. Donc, c'est pas toujours aussi simple. C'est pas parce qu'on cumule qu'on n'est pas souvent à l'Assemblée et réciproquement. Mais ça va radicalement changer les façons de travailler, ça c'est certain.
Bon, alors on aime bien les questions basiques, donc on va faire un peu de géographie et un peu d'histoire.
Oh, vous allez déplier la carte là.
Voilà, alors d'abord, pour ceux qui connaissent pas, hein, ça se trouve où, l'Assemblée nationale, le Palais
Bourbon à Paris ? L'Assemblée nationale, ça se trouve, ça donne sur la Seine, c'est en face de la Concorde.
7e arrondissement.
Voilà, le beau 7e arrondissement, c'est quand même les beaux quartiers de Paris, le Palais Bourbon, voilà, qui donne une très belle vue sur la Concorde.
Oui, c'est pas mal. Alors, ça a été construit quand et par qui ?
Ça date, ça a été construit au tout début du 18e siècle par Louise de Bourbon. Donc, fille naturelle de Louis XIV, Madame de Montespan, qui a construit ce palais Bourbon, qui a vécu un certain nombre d'années. Et puis, c'est après la Révolution que ça a été confisqué et que c'est devenu une chambre basse du Parlement.
Ah, c'était une
1791.
Maison. C'était une habitation.
C'était une habitation. Et il y avait même ce qui est aujourd'hui la résidence privée du président de l'Assemblée, qui est l'hôtel de Lassé, qui est juste à côté. C'était une résidence, la résidence du marquis de Lassé, qui était l'amoureux de Louise de Bourbon et qui avait collé son palais et qui avait construit son palais tout à côté.
Donc un lieu chargé d'histoire. Est-ce que, encore quand vous baladez dans les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est encore un peu vieillot, un peu vintage comme ça, ou ça s'est extrêmement modernisé ?
Alors, c'est pas vieillot, mais c'est vrai que quand on rentre, on sent l'histoire. C'est un endroit, en toute objectivité, qui est vraiment très beau. On voit beaucoup la salle des quatre colonnes à l'Assemblée, mais c'est pas du tout une des salles les plus impressionnantes. Il y a la salle des pas perdus qui est très grande, avec des magnifiques peintures sur le plafond. L'hémicycle est quand même très beau. Tout le monde dit, et c'est vrai, j'ai eu la même réaction en le voyant pour la première fois, que c'est plus petit que ce qu'on imagine, que ce qu'on voit à la télé. Mais voilà, on a ces lourds drapés de velours rouge, c'est les dorures. C'est sûr qu'on sent le poids de l'histoire. C'est vraiment un lieu impressionnant.
Hélène Begmézian, vous publiez J'irai dormir à l'Assemblée, les secrets du Palais Bourbon aux éditions Grasset. On dort beaucoup à l'Assemblée nationale. Vous avez dormi quoi, la nuit ou en journée ?
Alors certains députés dorment dans leur bureau, ceux qui habitent loin, qui peuvent pas forcément rentrer chez eux facilement. Donc il y a certains bureaux qui ont des chambres.
Des vraies chambres.
Des lits qui se déplient. Le titre, c'est plus une référence à cette émission qui est connue parce que il y a cette idée un petit peu de voyage en terre inconnue, pour reprendre un autre thème d'émission.
Mais voilà. Ça nous raccroche
et
à ce qu'on racontait juste avant,
chanson aussi, Voyage, Voyage. Et dormir, non, mais y passer des nuits, oui, de plus en plus, parce que maintenant, le travail s'intensifie, le travail législatif s'intensifie, et il y a de plus en plus de séances de nuit qui se terminent parfois au petit matin, comme ça a été le cas, notamment pour les débats sur le mariage pour tous.
Alors, les députés, on va donc les élire les 11 et 18 juin prochains. Ils font leur rentrée des classes quelques semaines après, ça se passe
Alors, le deuxième tour est le 18 juin, donc logiquement la première rentrée administrative, ça devrait être le mardi 20, et puis la rentrée protocolaire où on élit le président de l'Assemblée, tout ça, le mardi suivant, a priori.
Alors comment ça se passe ? Par qui ils sont accueillis ? Il y a quoi ? Il y a des huissiers ? Il y a tout un cérémonial ?
C'est une rentrée des classes ?
C'est exactement comme une rentrée des classes. La rentrée se fait par... Alors bon, là, il y a des travaux, donc ce sera peut-être pas la même configuration, mais se fait par la rue de l'Université. Les députés sont accueillis sous un chapiteau qui est érigé pour l'occasion, où on les attend avec une liste. Bonjour, qui êtes-vous ? De quelle circonscription ? Très bien, prenez votre badge. Alors ensuite, ils ont tout un parcours à faire. Ils reçoivent une mallette dans laquelle il y a un règlement de l'Assemblée nationale, une cocarde à mettre sur la voiture pour pouvoir se garer devant l'Assemblée, un badge pour pouvoir entrer. Bon, tout un tas de choses pratiques. Ils rentrent dans l'hémicycle chacun leur tour pour se faire tirer leur portrait officiel. Donc voilà, il y a tout un tas. Ça, c'est vraiment la rentrée administrative dans le sens où il n'y a pas de séance, quoi. Et c'est évidemment les huissiers qui, eux, sont tout le temps là, de manière permanente, qui les accueillent chez eux. C'est comme ça qu'ils les accueillent.
Avec quelle formule, précisément ?
Ils leur disent, c'est vrai, moi, ça m'a frappé. Ils leur disent « Bienvenue dans votre maison ». Et c'est quelque chose qu'on ressent tout au long de la législature, qu'il y a cet effort de la part des fonctionnaires, des administrateurs, de faire en sorte que les... Pour leur faciliter, l'idée, c'est de leur faciliter le travail, de faire en sorte qu'ils soient chez eux, qu'ils n'aient à se soucier de rien, qu'ils puissent aller où ils veulent sans qu'ils soient gênés ou entravés dans quoi que ce soit.
Alors là, il va y avoir pas mal de renouvellement a priori, hein, à l'Assemblée nationale pour cette prochaine législature. Les huissiers, ils sont physionomistes, il faut qu'ils se préparent pour reconnaître les députés, pas
alors,
se tromper.
À chaque rentrée, c'est très difficile. Et là, effectivement, je crois que ça va être le plus fort renouvellement qu'on ait jamais connu. Donc, ça va être spécialement difficile pour eux. D'autant plus que parfois, ce qui était le cas en 2012, on avait des nouveaux députés, mais qui avaient été assistants parlementaires, qui avaient été secrétaire général du groupe. Donc, ils étaient un peu connus des huissiers. Là, on va avoir des députés qui n'ont jamais mis les pieds à l'Assemblée, que les huissiers ne connaissent pas et qu'il va falloir connaître très vite parce qu'on ne peut pas interpeller un député pour lui demander qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites. C'est très malvenu.
Hélène Beck-Mézian, alors donc les députés vont faire leur rentrée le mardi après leur élection, donc vers le 20 juin, c'est ça. Ils ont le mode d'emploi, on leur fait visiter les lieux, super. Et puis il y a l'emploi du temps aussi. Alors c'est rythmé comment un emploi du temps de député ? Est-ce passe comment la semaine ?
Alors la semaine est surtout centrée sur le mardi et le mercredi parce que c'est les jours où il y a les séances de questions au gouvernement qui est ce qu'on connaît le plus du travail de l'Assemblée qui se déroule le mardi et mercredi après-midi. Il y a aussi les réunions de commission. Toutes les réunions importantes sont rassemblées le mardi et le mercredi. Donc c'est centré autour de ces deux jours. Ça commence véritablement le lundi après-midi jusqu'au vendredi matin, c'est assez rare. En général, c'est plutôt jeudi soir, la fin des séances. Ça, c'est sur un rythme entre guillemets normal. Bien sûr, c'est pas le cas quand on a des très gros textes de loi, la loi sur le mariage pour tous, ou des lois qu'il faut adopter assez rapidement, la loi Macron. Là, on siège le week-end, on siège tout le temps. Mais en général, c'est lundi après-midi, jeudi, à l'Assemblée à Paris, et le reste du temps plutôt consacré à la circonscription, au travail en circonscription.
Alors il y a la loi sur la moralisation de la vie politique qui se prépare, que prépare le ministre de la Justice François Bayrou, qui va peut-être supprimer la présence de membres de la famille des députés. Est-ce que vous avez croisé beaucoup de femmes de filles ou de fils de députés dans les couloirs de l'Assemblée ? C'est ce que vous allez nous dire dans un instant. A tout de suite sur RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Chaque année à l'Assemblée, ce sont des dizaines de lois qui sont adoptées, 1400 heures de débat, 33 000 questions posées au gouvernement par écrit ou par oral.
Ça cause.
Ah oui, c'est impressionnant. Évidemment, le Palais Bourbon qui dessine pour une première étape les lois de notre pays avant que le Sénat s'en occupe. Lui aussi, notre invitée Hélène Beck-Mézian y a passé, elle aussi, des jours et des nuits puisque vous avez été journaliste parlementaire pendant 4 ans. Je parlais de ce qui fait un peu polémique, hein, évidemment, depuis... l'affaire Pénélope, et puis encore aujourd'hui avec ce qui concerne Richard Ferrand, la question des assistants parlementaires familiaux. Est-ce que vous en croisiez beaucoup ?
Pas tant que ça. Après, en tant que journaliste parlementaire, on n'est pas forcément amené à être vraiment en contact avec les assistants parlementaires. Mais oui, et puis j'ai vu des épouses, des sœurs aussi d'eux, qui travaillaient vraiment, il faut le dire.
Bien sûr.
Y a beaucoup d'emplois familiaux qui sont des vrais emplois, qui souvent, voilà, parce que c'est, et on a besoin d'avoir quand même une certaine confiance quand on est député envers ses assistants parlementaires. Parfois, il y a des femmes, des épouses, des frères qui acceptent d'être payés moins que quelqu'un d'autre pour le même poste parce que c'est la famille. Donc il y a quand même beaucoup d'emplois familiaux qui sont des vrais emplois familiaux, et il y aurait des emplois fictifs. Ce qui est vrai, on a tendance à se dire que le plus simple, finalement, ce serait de faire comme au Parlement européen et d'interdire strictement toute embauche d'un proche, histoire d'éviter tout risque de conflit d'intérêts.
Et c'est ce qui sera sans doute dans la prochaine loi que prépare le ministre de la Justice.
Et pendant ces 4 années dans les couloirs de l'Assemblée nationale, vous avez croisé aussi pas mal d'enfants Que viennent faire les enfants dans, à l'Assemblée nationale?
Je dirais pas mal, quelques-uns. C'était surtout le cas au tout début, pendant le débat sur le mariage pour tous, où les séances ont duré jusque très très tard la nuit, parfois le week-end. Il y avait beaucoup de députés, de jeunes députés socialistes, donc il y avait des enfants en bas âge. Et comme c'était un peu le début de la législature, je pense qu'ils n'avaient pas forcément mesuré l'emploi du temps ou les horaires, et certains avaient des difficultés pour faire garder leurs enfants. Donc ça m'est arrivé une ou deux fois de voir effectivement des députés arriver avec leurs enfants parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix.
Il n'y a pas de nounou à l'Assemblée nationale.
Il n'y a pas de nounou, il n'y a même pas de crèche, alors que ça a été quelque chose qui était réclamé par beaucoup de députés, souvent femmes, mais aussi des hommes qui ont essayé de mener ce combat, qui ont cherché, je revois des députés essayer de chercher des emplacements dans les jardins pour monter une petite crèche, et bon, ça n'a pas abouti, mais peut-être qu'un jour ça finira par aboutir.
J'irai dormir à l'Assemblée, les secrets du Palais Bourbon, c'est le titre de votre livre, Hélène Beck-Mézian, c'est publié chez Grasset. À l'Assemblée, il y a 577 députés et un président. Comment est-ce qu'il est désigné et quel est son rôle ?
Le président est élu par ses pairs, par tous les membres de l'Assemblée. C'est la rentrée protocolaire, où c'est la première fois où c'est assez amusant, tous les députés qui sont assis, ils sont pas rassemblés par couleur politique, mais par ordre alphabétique. Donc on se retrouve avec un Balkany pas très loin d'un Bartolone, par exemple, alors qu'ils appartiennent pas du tout au même parti, donc c'est assez amusant. C'est dans le cadre de cette séance que le président est élu, il est toujours issu de la majorité.
Il reste longtemps ?
Il reste, alors c'est ça l'avantage de ce poste-là, c'est que parmi les hauts postes à responsabilité, c'est un des plus garantis. Disons que c'est quand même, quand on est ministre, il y a toujours le risque de se faire remercier lors d'un remaniement. Quand on est président de l'Assemblée, à moins d'une dissolution, ce qui est quand même très rare, on est à peu près garanti de garder son poste pendant 5 ans.
Alors comment il a accueilli le nouveau président de l'Assemblée dans l'hémicycle quand il préside les questions au gouvernement les mardis et mercredis ?
Alors c'est une tradition qui est assez impressionnante à voix. Moi-même, au bout de 4 ans et demi, 5 ans, je continuais à regarder ça parce que ça me fascinait. C'est la garde républicaine qui fait une haie d'honneur, dans la salle des pas perdus jusqu'à la salle des séances, qui est le nom officiel de l'hémicycle, et qui se met là pour accueillir le président. Et en fait, c'est une marque de soumission. C'est le pouvoir militaire qui montre qu'il se soumet au pouvoir politique. Et donc, tous les mardis, tous les mercredis, pour les séances de questions au gouvernement, tambour, garde républicaine avec le sabre droit, pas rien qui bouge, pas une poussière, pas une oreille qui bouge. Et le président qui marche très solennellement, lentement en général, jusqu'à l'hémicycle.
Ça pourrait sembler désuet, mais en fait, c'est ce que vous nous disiez, il y a beaucoup de symboles.
Il y a beaucoup de symboles.
Et c'est important de garder ces symboles dans une démocratie.
Après, ça peut se discuter. Moi, je pense aussi que c'est important. Je pense aussi que c'est important que la loi s'écrive dans un endroit qui est si prestigieux, qui est impressionnant.
Ça veut dire qu'on garde la mémoire aussi de notre histoire.
Absolument, ouais. Oui, qu'on se rappelle des autres qui sont passés là avant nous, des autres lois qui ont été écrites avant qu'on soit là. Donc, ça peut paraître effectivement totalement désuet. Ça coûte cher, par contre. C'est vrai que dans le rapport que fait René Dosière, qui est un député qui est spécialisé sur les comptes de l'État, il pointe souvent du doigt le fait que quand même cette garde républicaine coûte de l'argent qui pourrait peut-être être employé à autre chose.
Ce président de l'Assemblée, est-ce qu'il a de l'Assemblée nationale des remplaçants ? S'il est malade, par exemple ?
Alors, il a des remplaçants pour siéger les séances. C'est pas que quand il est malade, d'ailleurs, c'est la plupart du temps. En général, le président ne préside que les séances de questions au gouvernement et les séances très importantes. Par exemple, Claude Bartolone avait tenu à présider toutes les séances des débats sur le mariage pour tous. Mais habituellement, il laisse la main à l'un de ses vice-présidents qui, là, pour le coup, représente la diversité politique de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on avait de mémoire deux vice-présidents socialistes, un écologiste, un centriste, un de droite, et je dois en oublier un. Voilà. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'est pour représenter la diversité.
Mais leur remplacement se passe pas toujours bien, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Qu'est-ce qu'il s'est passé un soir de février 2013 où Claude Bartolone, justement, n'avait pas pu venir ?
Alors, on est encore pendant les débats mariage pour tous, qui, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était quand même des débats très électriques, où on cherchait tout le temps l'incident de séance, on cherchait tout le temps la provocation. Et c'est vrai que, exceptionnellement, Bartolone n'avait pas pu siéger de mémoire pour des raisons personnelles. Et donc, c'était une de ses vice-présidentes qui était montée à la tribune, et en l'espace de 2 secondes, toute la droite s'était mise à hurler, pratiquement en tapant du poing sur les pupitres, ils scandaient Bartolone, 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 d'un air de dire on ne reconnaît pas votre légitimité, on veut que ce soit Bartolone qui préside, mais c'était évidemment un prétexte. Mais on sent bien que quand ce n'est pas le président, c'est un peu comme avec un remplaçant en cours de maths, quoi. On sent qu'on se permet des choses qu'on se permettrait pas.
On défie l'autorité.
Exactement.
À l'Assemblée nationale, ben oui, on a l'art d'insulter aussi. Vous allez découvrir dans un instant sur RTL qu'à une époque, un simple merde pouvait mettre le feu à l'hémicycle. À tout de suite.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les secrets du palais Bourbon, c'est le thème de notre curiosité et le titre du livre de notre invitée Hélène Beckmézian qui a passé ses nuits et ses jours pendant 4 années. C'est aux éditions Grasset. Alors c'est vrai qu'on a souvent l'image des députés qui chahutent et qui huent dans celui qui a pris la parole dans l'hémicycle. On voit ça aux questions du gouvernement le mardi, des questions au gouvernement pardon le mardi et le mercredi. Mais c'est quoi cette façon de chahuter? C'est un mode d'expression des parlementaires ou ils sont tout le temps chafouins?
Il y a plusieurs réponses à cette question. Bon, déjà, c'est vrai que c'est ce qu'on voit aux séances de questions le mardi et le mercredi. C'est pas le cas dans la plupart des séances qui se passent dans un climat totalement cordial, constructif
et qui ne sont pas filmées.
Et qui ne sont pas filmées. C'est une des clés de la réponse. Effectivement, le fait que ce soit filmé fait que il y a cette excitation de vue à la télé, de besoin d'être vu concrètement à la télé, parce que après, quand on rentre en circonscription, on nous dit, les électeurs vous disent, ah bah je vous ai vu, je vous ai aperçu, que ce soit en bien ou en mal, l'important c'est d'apparaître à l'écran. Donc il y a ce côté vu à la télé, et il y a, je pense, il y a quelque chose de plus profond qui est que dans la 5e République, les députés ont tendance à être infantilisés, à ne pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, donc finalement à se comporter un petit peu comme des enfants, à faire du chahut, comme dans une classe d'école.
Des caprices en fait.
Des caprices, il y a ça peut renforcer aussi la cohésion de groupe, renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe. Et puis il y a un autre élément aussi qui est que le chahut, pousser à l'incident, c'est aussi essayer de pousser l'autre à la faute.
Ça, vous l'avez vécu par exemple avec Manuel Valls.
Avec Manuel Valls, c'était effectivement une séance qui était assez impressionnante. C'était en novembre 2012, il était ministre de l'Intérieur, donc ça faisait pas très longtemps. Et je me rappelle très bien, c'était pendant une séance de questions au gouvernement, il répondait comme il avait l'habitude de faire, assez énervé, de plus en plus énervé, à faire monter le ton. Et puis il avait cette phrase qui revenait beaucoup, il disait l'esbrouf c'est vous, la crise c'est vous, ceci c'est vous, puis il a fini par lâcher le retour du terrorisme c'est vous. Il faisait référence à Mohamed Merah qui avait commis ses actes au mois de mars précédent, et en disant ça, ça a déclenché un tollé monstrueux dans l'hémicycle, la droite et en a profité pour partir. Et c'est vrai que Manuel Valls en est arrivé à cette extrémité-là, parce que la droite s'énervait, le poussait à la faute, le huait, et lui il a pas su arrêter le sang qui lui montait jusqu'à la tête, et puis il a fini par craquer et voilà, à vraiment commettre une faute.
Oui, parce que c'était une faute politique d'aller jusque-là. Et du coup, les députés de droite ont quitté l'hémicycle, c'est ça? Ça n'arrive pas très souvent.
Ça n'arrive pas très souvent, mais effectivement, on voit bien que, comment dire, d'une certaine manière, ils attendaient que ça.
Mais c'était du théâtre aussi.
Oui, c'est une théâtre, et puis en fait, c'est une forme de mise en scène très impressionnante, très, très clivante, des divisions. Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça. Il y a eu Noël, ma mère a été coutumier du fait. Plusieurs fois, il a répondu de manière un peu agressive ou en prenant les uns et les autres à partie, et ce qui a provoqué le départ d'une partie de l'hémicycle. J'avais retrouvé en 2006, quand Villepin avait eu le malheur de parler de lâcheté en s'adressant à la gauche, ça avait rendu la gauche folle furieuse. Barouin, en 2011, qui avait dit à la gauche qu'elle était rentrée au pouvoir par réfraction en 97, ça avait pareil déclenché une polémique très vive dans l'hémicycle. Je crois qu'ils avaient failli en venir aux mains. Donc voilà, il y a ça dérape quand même parfois.
Mais vous nous dites que finalement les députés, parce qu'ils sont filmés, cherchent à se faire remarquer. Mais est-ce qu'ils sont conscients que ça abîme aussi peut-être leur image et l'image de la représentation nationale?
C'est une question à laquelle j'ai eu du mal à répondre. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont conscients dans le sens où quand on leur parle individuellement, tous disent effectivement que c'est affligeant. Beaucoup disent qu'il faut réformer cette façon de faire, que c'est pas normal, que ça ne sert à rien, que ça apporte rien. Et en même temps, quand ils sont dans le bain, ils n'arrivent pas à se contrôler. Je pense qu'il y a un effet de groupe, qu'ils sont pris là-dedans.
Puis il y a l'effet arène aussi dans la.
Oui, il y a l'effet arène. Il faut se rendre compte que quand on est, ça m'est arrivé d'être au pied de l'hémicycle, l'hémicycle est très raide. C'est-à-dire qu'on se sent vite comme entouré, on se sent vraiment comme dans une arène. Et je pense que quand on a 500 personnes qui vous regardent avec votre camp qui vous soutient en faisant du bruit aussi, le camp opposé qui vous hue en faisant tout autant de bruit, voilà, ça crée une effervescence, une chaleur qui peut dégénérer.
C'est pas aussi une histoire de testostérone ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de députés masculins.
Bien sûr, on entend quand même beaucoup plus, on entend beaucoup plus les hommes crier, hurler. Et systématiquement, dans tous les exemples que j'ai cités, voilà, il n'y a pas de femmes. C'est très rare que ce soit des femmes qui déclenchent ces incidents en séance. Quoique, à la fin de la législature dernière, c'est vrai que Najat Vallaud-Belkacem avait fini par prendre beaucoup d'assurance dans l'hémicycle et par savoir comment énerver la droite et sur quels mots appuyer avec un ton très calme pour les faire sortir de leur groupe.
Vive la parité. Alors, est-ce qu'il y a un code de bonne conduite à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il y a des mots à ne pas prononcer dans l'hémicycle, par exemple, aujourd'hui ?
Il n'y a pas de mots interdits.
De gestes ?
Il n'y a pas de gestes interdits.
On ne se tape pas.
On ne se tape pas, évidemment. Ça a failli, plusieurs reprises, ça a failli dégénérer, des députés ont failli en venir aux mains. Après, comme je l'ai dit, il y a des mots, on va dire presque tabous, en tout cas des mots déclencheurs. Traiter le camp d'en face d'irresponsable, le traiter de lâche, d'être illégitime. C'est des mots comme ça qui, tout de suite, font partir au quart de tour, parce que c'est des mots assez forts et qui appuient exactement là où ça fait mal.
Et puis, alors, il y a ce qu'on a annoncé il y a quelques minutes, il y a les insultes. Et donc, elles sont recensées, notées. Il y a un cahier des insultes à l'Assemblée.
Alors, c'est pas exactement ça. En fait, il y a ce qui s'appelle, dans les services de l'Assemblée, une bibliothèque des précédents dans laquelle on range tout ce qui n'est pas prévu, tout ce qui a fait précédent. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas prévu dans le règlement de l'Assemblée nationale, tout ce qui n'est pas prévu dans la Constitution. Et dans cette bibliothèque, il y a deux classeurs qui sont spécifiquement sur les incidents et les insultes, qui ont donné lieu à une réunion du bureau qui est une des instances de l'Assemblée, c'est-à-dire qui, encore une fois, des problèmes qu'on n'a pas su régler avec juste le règlement ou la Constitution. Et donc, il a fallu créer soit des nouvelles règles, soit établir des nouveaux modes de fonctionnement. Et donc, c'est comme ça qu'on a tous les insultes ou les incidents qui ont fait, voilà, qui ont fait précédent, qui sont dans ces,
donc,
qui sont classés dans ces.
Et donc, de merde à nique ta mère.
Voilà, c'est un merde en 1957.
Exactement, ce fameux merde. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir parcourir ces classeurs. Je me suis beaucoup amusée.
On va la raconter dans un instant.
Avec plaisir.
Hein ? Et le nique ta mère aussi, parce qu'il nous intrigue pas mal, celui-là. À tout de suite, les curieux.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et on découvre les secrets de l'Assemblée nationale sur RTL avec notre invitée qui a passé plus de 4 années, la journaliste Hélène Beck-Mézian. Alors ça fait deux fois qu'on dit « et alors ce merde, pardon pour ceux qui nous rejoignent », prononcé dans l'hémicycle le 20 janvier 1957 et qui donc se retrouve dans ce registre. Qui l'a prononcé ce merde ? C'est quoi l'histoire de ce merde ?
Alors, je ne connais pas exactement l'histoire.
Tu dis 4 fois en 1 minute.
C'est un député qui s'appelait Jean-Louis Vigier. Ce qui est amusant, en fait, c'est de voir que c'était tellement exceptionnel, ça ne se faisait tellement pas, que ça a fait effectivement un très gros incident de séance, qu'il a fallu suspendre la séance, et qu'on a consigné ça dans ce fameux classeur des précédents dont je parlais, où on n'a même pas écrit le fameux mot que vous n'arrêtez pas de prononcer. Il y a écrit, le député a prononcé le mot de Cambronne à l'intention de ses collègues et du président. Donc attention de ne pas dire.
Ça marque une époque. Aussi.
Ça marque une époque. Et effectivement, pardon, on est très loin du nique ta mère. 40 ans après, 1996, qui est adressé à Christiane Taubira, qui à l'époque était députée de la Guyane. Mmh. Et voilà, une voix indéterminée lui envoie ça dans l'hémicycle. Et pareil, ça a suscité suspension de séance, etc., etc.
Hélène Beck-Mézian, vous croquez dans votre livre les orateurs de l'Assemblée nationale, parce que vous avez eu le temps, évidemment, 4 ans de les observer, et vous les classez dans différentes catégories. Il y a par exemple le professeur.
Le professeur, c'est celui qui répond toujours très calmement, qui ne s'énerve pas, avec précision, qui parle sans notes, qui sait très bien où il va. Alors, c'est souvent les ministres, qui était le cas de Jean-Jacques Urvoas quand il est devenu ministre, Bernard Cazeneuve, évidemment, Laurent Fabius, très impressionnant, quand il parlait, le silence se faisait instantanément. C'est aussi des orateurs qui, vous savez, le temps de parole est limité à 2 minutes. Quand ils disent quelque chose, c'est très précis, très juste, et ils s'arrêtent de parler à 1 minute 59.
Ah, ils répètent beaucoup.
Ça, c'est impressionnant.
C'est très impressionnant à voir.
Ouais. Alors, on ne va pas pouvoir tous les détailler, mais il y a le citeur, le torero, l'inspiré, le professeur, donc l'humoriste, le scolaire, l'inspiré, par exemple. C'est quoi ? C'est des grandes tirades lyriques ?
C'est grandes tirades lyriques qui fonctionnent plus ou moins bien. Par exemple, avec Christiane Taubira, ça marchait assez bien, dans le sens où c'était salué. Quand Henri Guénaud avait tendance à faire ça aussi, bon, on avait plus tendance à être tourné en ridicule parce que ça fonctionnait pas forcément bien. On peut imaginer qu'un Jean-Luc Mélenchon, s'il arrive à se faire élire député, sera peut-être dans cette catégorie de tribun inspiré.
Mais Patrick Mennucci n'est pas d'accord, donc on verra bien comment ça se passe à Marseille.
J'aime bien les petits citeurs aussi. Il y a les citeurs sérieux, puis ceux qui disent, par exemple, comme ça, en plein milieu de l'hémicycle, la bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux. Alors là, on se dit, mais qui a dit ça et pourquoi ça sort comme ça
oui,
en séance?
Oui, mettez-vous à ma place, moi, j'écoute ça à minuit et demi dans un débat sur.
Ah, ça vous réveille?
Budget de la sécurité sociale, voilà, on se dit qu'est-ce que c'est que ça. Effectivement, on a de tout. Alors, on a des citations de Jaurès, de Blum, de Gaulle, et puis on a des citations de Groucho Marx ou d'autres.
Dépend de quel bord on est aussi.
Ça dépend de quel bord on est. Quand on est de gauche, on va citer plus volontiers Jaurès. Quand on est de droite, on citera plus volontiers de Gaulle, évidemment.
Alors, il y a les humoristes aussi. Il y en a un qu'on a découvert lors des débats de la présidentielle.
Scène, ouais.
C'est Jean Lassalle.
Ah oui.
Lui, il a la blague facile.
Oui, c'est-à-dire que.
Et un peu malgré lui
voilà,
aussi.
C'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément qu'il le fait exprès, mais il le sait très bien. Et quand il prend la parole, quand le président annonce Jean Lassalle, on entend systématiquement un grand A de satisfaction qui s'élève dans l'hémicycle, parce que tout le monde sait qu'il va passer un bon moment. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, pendant les débats sur la loi Macron, qui ont duré très longtemps, où tout le monde était épuisé, il y avait eu une scène absolument mémorable où Jean Lassalle, pendant de très longues minutes, dépassant largement son temps de parole, mais en général, on le laisse faire parce que c'est Jean Lassalle et parce que c'est amusant, qui avait raconté tous ses déboires pour passer son permis de conduire. Et Macron était. Il pleurait de rire, tout le monde était plié en quatre. C'est ces moments-là qui sont. Voilà, et puis qui sont très humains, qui sont sincères, qui sont inattendus, qui font de l'Assemblée un lieu assez attachant.
Y a peut-être des députés qu'on imagine moins dans cette catégorie des humoristes. Par exemple, François de Rugy. Pourquoi vous l'avez classé dans cette catégorie?
Au début de la législature, il avait fait un petit sketch improvisé. Il avait appelé ça le Copé Comedy Club. On va pas revenir sur le fond, c'était un sujet assez compliqué, je sais plus, un truc économique. Et puis,
donc,
Jean-François Copé, il avait commencé à le tourner en dérision. Et puis, il avait réussi à trouver quelque chose, ça avait duré 5-10 minutes. Il avait fait quelque chose autour du Copé Comedy Club, pardon. Et c'est vrai que petit à petit, tout le monde avait commencé à se réveiller un petit peu de sa torpeur et à écouter avec beaucoup d'amusement. Et aujourd'hui encore, vous tapez Copé Rugy dans Google, c'est le premier truc qui sort, c'est l'extrait vidéo de cette scène que je vous conseille de regarder, que c'est quand même assez amusante.
Un grand moment de l'Assemblée nationale. Begmézian, vous avez passé 4 ans dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Où est-ce que les journalistes et les députés se croisent en dehors de la fameuse salle des 4 colonnes? Il y a un resto, un bar, une cafette?
Il y a une buvette, on appelle ça, la buvette des journalistes, où les députés viennent parfois, mais bon, c'est vrai qu'on préfère rester entre journalistes quand même. Les députés ont leur buvette aussi, à laquelle on n'est pas autorisé, on n'a pas accès.
Mais il y a de l'alcool? Dans ces buvettes, il y a
bien
tout.
Sûr, il y a de l'alcool, ouais. Il y a à manger, à boire. Et puis, là où on se rend compte surtout, c'est vrai, c'est dans tous les restaurants qui tout autour du Palais Bourbon, dans tout le 7e arrondissement, autour de déjeuner, autour de café, et puis dans les couloirs, tout bêtement aussi.
Il y a une bonne ambiance à l'Assemblée nationale. C'est plutôt une ambiance stressante ou alors on s'amuse.
C'est pas une ambiance stressante, c'est plutôt une bonne ambiance. Et je pense que ça réside dans le fait qu'il y a beaucoup de monde en fait qui circule dans cette maison. Il y a 577 députés. Il y a, je pense,
combien de journalistes
une centaine de journalistes accrédités peut-être, donc ils sont pas là tout le temps. Plus des fonctionnaires, plus des administrateurs. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait une ruche. Et il y a un côté un petit peu pensionnat, un petit peu colo et qui est assez sympathique, ce qui est plutôt une bonne ambiance. J'aurais tendance à penser parfois un peu trop bonne ambiance, c'est-à-dire
pourquoi
qu'on a tendance à se sentir un peu trop bien. Je trouve aussi bien les députés qui, on le voit bien, ont du mal à décrocher, que aussi les journalistes parlementaires qui parfois restent très longtemps en poste, et ce qui peut nourrir une certaine proximité ou
connivence,
voire une connivence.
Merci beaucoup, Hélène Begmézian. Vous publiez J'irai dormir à l'Assemblée, les secrets du Palais Bourbon. C'est aux éditions Grasset. À très bientôt, micro de la curiosité, j'espère. Ouais.